Cap Sport, la rediff.
Allez, on va démarrer avec une petite devinette aujourd'hui. Quel est le point commun entre Val-de-Ruz, Delémont et La Chaux-de-Fonds ? Eh bien, ces trois communes possèdent toutes trois une équipe dont l'élite suisse du tchoukball. Val-de-Ruz est même qualifiée pour la grande finale de Liga, alors que La Chaux-de-Fonds pourrait également y parvenir ces prochaines heures. Coup de projecteur ce soir dans ce sport né en Suisse, mais qui reste parfois encore un peu méconnu du grand public. Et puis en seconde partie d'émission, on met le cap sur le Danemark et sa capitale, Copenhague. C'est là que l'équipe de Suisse de hockey sur glace a posé ses valises pour disputer les championnats du monde. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial pour ces joutes mondiales, Mathieu Germanier. Bonsoir et bienvenue dans Cap Sport, le rendez-vous sportif de la fin de semaine. Et pour développer ces deux sujets, c'est avec vous Michel Léoni. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Michel, on s'intéresse ce soir à une discipline où la Suisse peut quand même, oui, se targuer d'avoir été championne du monde.
Effectivement, nous avons été champions du monde, figurez-vous, de tchoukball, cette pratique qui mêle certaines règles du handball et du volleyball. L'objectif est de faire rebondir une balle sur un cadre de telle sorte que l'adversaire ne puisse plus la rattraper. Et dans Cap Sport ce soir, on peut également se targuer d'avoir avec nous en direct le membre d'honneur du club de Val-de-Ruz et surtout le cofondateur de cette pratique sportive, Michel Favre. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec nous également ce soir, l'entraîneur de l'équipe de Delémont, Nicolas Mangold. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Michel Favre, on a envie de directement vous demander, comment est né ce sport dans les années 60-70? Comment est née en vous l'idée de ce sport surtout?
Alors, si vous voulez, ce qui m'a beaucoup passionné dans ce sport, c'est surtout lorsque j'ai pu connaître le docteur Hermann Brand qui venait d'écrire un livre « Éducation physique, sport et biologie ». Et ce livre, si vous voulez, révolutionnait un tout petit peu la manière dont il fallait s'entraîner. Et puis j'ai eu la chance de le rencontrer, et c'est lorsque je l'ai rencontré qu'il m'a dit « Mais écoutez, je vais vous présenter, j'ai une idée d'un nouveau sport ». C'est surtout la pelote basse qui m'a inspiré cette idée. Et puis, j'ai eu la chance ensuite de travailler avec lui. Et puis, avec lui, on a créé les premières règles de ce sport. Donc, M. Brand était né à La Chaux-de-Fonds en 1897, le 6 octobre. Et puis, grâce à lui, on a pu créer des règles qui, si vous voulez, les règles sont le plus fair play possible, si j'ose dire. On va même plus loin que le fair play.
Oui, parce que c'est ça, en fait. Le sport aussi a été créé comme une sorte d'alternative à d'autres sports, avec notamment pas vraiment de contact, pas d'interception. C'était vraiment l'idée d'avoir autre chose que les sports déjà établis.
Alors, tout à fait. Si vous voulez, on dit plus on va jouer contre quelqu'un, on dit on va jouer avec quelqu'un. Ça me paraît très, très important. Et puis, il y a une chose qui est très, très importante pour les jeunes enfants qui commencent. Lorsqu'il n'y a pas d'interception, le joueur qui a la balle, c'est lui qui peut décider de faire une passe ou éventuellement tirer au cadre. Donc, comme dirait Albert Jacquard, ça apprend à un individu à s'autogérer. Ça, c'est les deux fameuses racines du mot éducation. S'autogérer. Et puis l'autre partie, faut apprendre les maths, la physique, les règles. Donc ça, c'est un point fort pour le développement d'un enfant.
Nicolas Mangold, vous qui êtes entraîneur à Delémont, dites-nous un peu qui s'intéresse aujourd'hui au tchoukball.
Alors c'est finalement assez hétéroclite. Dans notre club, on accueille des personnes allant entre 10 et 50 ans. Et avec l'arrivée de la compétition depuis quelques années à Delémont, le club s'est fortement rajeuni et puis on a une bonne présence de jeunes maintenant qui s'entraînent régulièrement avec nous.
Alors aujourd'hui, l'Arc Jurassien est très bien représenté avec trois équipes dans l'élite du tchoukball helvétique, qui est par ailleurs formée exclusivement d'équipes romandes. D'ailleurs, les équipes nationales féminines et masculines ne sont composées que de joueuses et joueurs romands. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'absence de Suisse-Allemands, de Tessinois, par exemple, Michel Favre?
Alors, ça, c'est un peu le problème, parce que en Suisse allemande, le handball est très développé. Et puis, si vous voulez, comme c'est très très peu médiatisé, maintenant, bien sûr, ça commence sur Winterthur, sur Zurich. Mais le gros problème, c'est de trouver des bénévoles et convaincus, si vous voulez, de cette philosophie. Mais petit à petit, maintenant, à Macolin, on donne des cours sur JS, maintenant aussi en Suisse allemande. Au Tessin, c'est tout parti sur l'Italie, mais maintenant, il y a quand même dans nos cours de JS quelques Tessinois. Et c'est ça le problème, c'est de trouver des gens motivés et bénévoles pour entourer les enfants et les adultes, hein, parce qu'on peut jouer jusqu'à 70, voire passer à ce jeu, vu qu'il n'y a pas d'obstruction.
Nicolas Mangold, on l'a dit, l'arc jurassien est très bien représenté en Liga, dans l'élite du tchoukball helvétique. Pourquoi est-ce que l'arc jurassien est si fort en tchoukball?
Je pense d'abord que c'est dû en fait que c'est l'arc jurassien un des deux berceaux du tchoukball suisse. Avec Genève, et finalement, c'est assez logiquement que les équipes se sont développées dans ces régions-là pour devenir de plus en plus fortes, en fait.
Et puis concrètement, être un joueur en Liga, en Liga de tchoukball, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça implique en termes de temps d'investissement, Nicolas Mangold?
Alors, chez nous, ça implique deux entraînements par semaine, plus de la condition physique chaque jour. La semaine et puis une vingtaine entre 20 et 25 matchs par année.
Et de longs déplacements?
Oui, on doit se déplacer une dizaine de fois du côté du Léman chaque année. Donc c'est un investissement de temps et bénévole aussi, surtout. Mais...
De point de vue international, cette fois on l'a dit en préambule, l'équipe masculine a déjà été championne du monde, c'était en 2004, l'équipe de Suisse donc. L'équipe féminine, elle, a fini 5 joutes mondiales sur le podium et est championne d'Europe en titre. Noémie a passé un coup de fil à Loïc Henrings, responsable du cadre national et de la commission des espoirs, pour connaître le niveau actuel de nos équipes nationales et des clubs actifs dans notre pays.
La Suisse se situe au niveau international à une place plutôt intéressante. On va dire qu'on joue les premiers rôles maintenant depuis quelques années, voire même depuis toujours. Au niveau européen, on lutte avec l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche, je dirais, pour les places sur le podium et pour les différents titres en jeu, en compétition continentale. Le niveau championnat suisse est très intéressant. On arrive souvent à placer des équipes dans le top européen lors des compétitions de clubs telles que la Champions League ou la Ligue Europa, comme on retrouve au football. D'ailleurs, cette année, la Chaux de Fonds a remporté la Ligue Europa, donc la deuxième compétition continentale. Donc on voit que depuis quelques années, le travail fait au sein de nos clubs paye, parce que nos clubs suisses arrivent constamment à briller au niveau européen.
Michel Favre, où est-ce que notre pays en est, cette fois-ci, d'un point de vue mondial?
Alors notre pays, sur le plan mondial, est quasi chaque fois sur le podium. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que toutes ces rencontres, c'est important de dire une chose qui me paraît importante pour bien montrer qu'on reste très, très attaché à la charte, à la philosophie, c'est que quand un joueur tire au cadre et que l'autre équipe prend la balle, mais la balle touche le sol, l'arbitre ne voit pas que la balle a touché le sol, le joueur dit « j'ai perdu le point ». Et ça, je trouve fantastique, ça, dans toutes nos rencontres internationales, ça marche toujours. Et ça, c'est quelque chose dont je suis très attaché, de pouvoir reconnaître « ah ouais, j'ai perdu le point ». Voilà.
Michel Favre, on dit que l'équipe de Suisse figure parmi les meilleures équipes mondiales. Si on voulait citer deux, trois autres nations d'un point de vue international qui sortent du lot, ce serait lesquelles?
Ah bon, alors il y a surtout Taïwan, hein. L'équipe de Taïwan est une équipe fantastique. Et puis l'Italie et maintenant l'Autriche sont des... Ouais, ils ont vraiment pris l'entraînement à cœur et ils font du très très, très beau tchoukball. Et je le répète toujours avec ce respect.
Justement, le mot Michel Favre, le respect, on va peut-être y revenir dessus juste quelques secondes. Parce que vous parlez justement de cette philosophie du tchoukball qui est un peu différente des autres sports, notamment pour prendre exemple du football, avec vraiment énormément de fair play, avec, vous le disiez, des équipes qui ne jouent pas l'une contre l'autre, mais l'une avec l'autre. Quand on arrive à des matchs internationaux, à des matchs de championnat même de Ligue A, avec quand même un titre de champion de Suisse à la clé, est-ce que ça reste? Est-ce que ça demeure? Est-ce qu'on a parfois un glissement du tchoukball vers des disciplines où finalement il n'y a que la victoire compte, où on arrive à maintenir ce sport vraiment dans son ancrage historique?
Alors, chaque fois que j'assiste au match de Ligue nationale, surtout ici au Val-de-Rue, puisque je suis à la table, c'est quelque chose de fantastique. Oui, c'est maintenu. C'est clair que quand on a introduit la compétition, j'ai eu peur de ça. Mais finalement, maintenant, chacun a compris que le plus important, c'est d'aller jouer avec l'autre. Et puis quand on joue avec l'autre, même si l'équipe en face est plus meilleure, si vous voulez, que nous, on apprend toujours quelque chose d'aller jouer avec. Et puis à la fin du match, tout le monde se serre la main, et je trouve assez fantastique. Donc j'espère que ça continuera comme ça.
Nicolas Mangold, c'est quelque chose qu'on enseigne entre guillemets à la jeune relève quand elle arrive pour la première fois à l'entraînement, ce fair play historique du chokeball.
Tout à fait, c'est aussi quelque chose qu'on essaie de transmettre aux jeunes joueurs qui viennent essayer pour la première fois aux entraînements. C'est un des premiers enseignements qu'on essaie de leur apprendre.
Et Adelément, il y en a beaucoup de ces jeunes qui viennent essayer, comme vous dites.
Oui, actuellement, à l'entraînement junior, ils sont entre 15 et 20 à chaque entraînement, donc c'est très satisfaisant pour le club. C'est une bonne chose pour la relève.
Michel Favre, du côté de Val-de-Rue, la relève se porte comment? De mieux en mieux, de pire en pire?
Ah non, alors de mieux en mieux, maintenant il y a un entraînement des M10, M12 et puis des M15. Puis tout à l'heure, il y aura l'entraînement de l'équipe A. Et puis ce soir même, l'équipe B va jouer à Genève avec Carouge pour le championnat de Ligue B.
Donc un beau succès global, on sent qu'à la relève, ça prend concrètement, en tout cas du côté de Val-de-Rue, le tchoukball.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est, bien sûr, le problème, c'est de tabler sur des gens qui veulent bien venir encadrer ces jeunes, faire le cours de JS à Macolin. Et puis on a adapté maintenant, on a adapté les règles pour les tout-petits. On a changé que les règles soient plus faciles, la zone est petite, on joue avec des ballons plus tendres et ça permet vraiment aux enfants d'avoir un plaisir fou et on diminue le nombre de joueurs par équipe et puis ça leur permet d'avoir souvent la balle.
Un sport qui évolue, on le comprend bien justement, Michel Favre, comment vous voyez un peu l'avenir du tchoukball ces quelques prochaines années?
Alors pour moi, j'espère que il se développera toujours avec ce que je viens de vous dire au niveau philosophique. Du reste, dernièrement, j'ai été invité à l'île de la Réunion et il y a maintenant une douzaine d'équipes qui jouent à la Réunion avec plein de jeunes et puis ils vont développer sur le Maroc, enfin bref, mais c'est toujours par des liens, si vous voulez, d'éducateurs qui ont compris qu'on pouvait construire quelque chose avec ce sport. J'aimerais bien que dans tous les autres sports, ça se passe comme ça. Il y a un effort maintenant de Macolin qui essaye d'introduire le foot et d'autres sports avec les enfants, avec une philosophie un petit peu plus fair play, si j'ose dire. Et ça, je trouve très bien.
Avec l'évolution décrite dans cette émission, l'évolution du tchoukball, on pourrait se poser la question de savoir si le tchoukball va apparaître ces prochaines années dans les Jeux Olympiques. En tout cas, c'est la question que Noémie a posée à Loïc Henrings, responsable du cadre national et de la commission des espoirs.
Alors effectivement, le tchoukball ne fait pas partie des sports olympiques, comme beaucoup d'autres au final. Le tchoukball a été inventé au début des années 60, donc ça reste un sport très jeune. Pour nous, on n'est pas du tout surpris, ni même choqués, de ne pas voir figurer le tchoukball au sein de la liste olympique. Maintenant, avec la Fédération Suisse de tchoukball, on travaille justement pour intégrer déjà, dans un premier temps, le mouvement suisse olympique, qui là nous donnera une meilleure visibilité au sein de la Suisse et nous ouvrira peut-être des portes un peu plus grandes pour l'international. Mais je pense que les Jeux olympiques, c'est pas pour tout de suite. On a déjà réussi à faire quelques apparitions en World Games, qui est un peu l'antichambre des Jeux olympiques avec les sports un peu plus petits et les sports mineurs. Et déjà ça, en soi, c'était déjà un succès.
Est-ce que du coup, le fait que ce soit pas olympique, selon vous, ça peut décourager certains pays de le pratiquer plus intensément?
Alors, il est vrai, je pense qu'un sport qui a le label olympique, qui est présent aux Jeux olympiques et donc qui offre une visibilité à l'international du pays en question, peut bénéficier de davantage de soutien, que ce soit tant sur le plan financier ou humain, de la part du gouvernement. Maintenant, je ne peux pas parler au nom des autres pays et des autres fédérations, mais je sais qu'on travaille fort au sein de Swiss Tchoukball afin d'intégrer Suisse Olympique. Et qui sait, pourquoi pas un jour intégrer les Jeux Olympiques. On verra, on croise les doigts.
Michel Favre, vous êtes cofondateur de ce sport. Vous l'avez vu évoluer jusqu'à des championnats d'Europe et du monde, hein, par exemple. Est-ce que vous pensez le voir aux JO ces prochaines années?
Écoutez, je suis, comment faut dire, parce que y aurait beaucoup de choses à dire. Hein, parce que dans notre première charte, on avait mis, il faut bannir l'esprit olympique parce que avec ces mouvements outranciers. Mais il faut dire que dans les années 70, les Olympiques, c'était soi-disant amateur. Donc on savait que certaines grandes fédérations venaient avec des professionnels. Et puis, après, ben maintenant, depuis les années 75, en somme, les sports sont devenus des métiers. La preuve en Suisse, c'est qu'après, il y a eu la VS. Et maintenant, ben voilà, est-ce qu'un jour, on aura des professionnels dans le tchouk? À mon avis, moi, ça me fait toujours drôle quand on me dit que quand j'entends des footballeurs qui, j'entendais l'autre jour à la radio, qui me disent, oh, ben maintenant, on va aller travailler. Bon, mais ma foi, ça, c'est une question d'évolution dans les mentalités. Moi, je peux me permettre ces critiques-là parce que je suis aussi instructeur suisse de foot. J'ai même eu Michel de Castel, Bernard Chaland comme junior. Donc, voilà. Si, lorsque l'on est aux Jeux Olympiques, on arrive à faire passer ce que je viens de vous dire au niveau de la philosophie, alors je serai très, 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 très content.
Michel Favre et Nicolas Mangold, merci d'avoir été en direct avec nous pour évoquer le tchoukball. On rappelle que les équipes de Delémont, Val-de-Ru et La Chaux-de-Fonds évoluent en Liga. Val-de-Ru est déjà qualifié pour la finale alors que La Chaux-de-Fonds est en demi-finale contre Lausanne. Les Chaux-de-Fonniers mènent 1-0 dans une série qui se joue au meilleur des trois rencontres. L'acte 2 a lieu ce vendredi soir.
Cap Sport, la rediff.
Et pour la suite de ce Cap Sport, direction le Nord, direction Copenhague, le Danemark, où les championnats du monde de hockey sur glace viennent de commencer.
Et ils ont débuté sur les chapeaux de roue avec le choc fratricide entre le Canada et les États-Unis. Dans le groupe B, il y a 4-4 entre les deux formations à l'issue des prolongations. Dans le groupe A, celui de la Suisse, la Russie est très bien entrée dans le tournoi. Elle a étrié la France. Résultat 7-0. Vendredi, deux matchs sont encore au programme ce soir. Donc à 20h15, dans le groupe A, la Suède défie le Bélarus, alors que dans le groupe B, le pays hôte se frottera à l'Allemagne. La Suisse, elle, entre en lice ce samedi avec un duel contre l'Autriche à 12h15. Pour évoquer ces joutes mondiales, on met le cap sur Copenhague, où la Suisse jouera toutes ses rencontres de groupe. Mathieu Germanier, vous êtes notre envoyé spécial pour ce championnat du monde. Bonsoir.
Bonsoir Michel, bonsoir à tous.
Dites-nous déjà, est-ce que vous ressentez une certaine fièvre du hockey sur glace au Danemark?
Ouais, c'est encore un peu tôt pour le dire. On a vu des maillots russes, on a vu des maillots suédois dans les rues. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est encore compliqué. On n'a pas encore eu le temps de prendre vraiment la température à Copenhague, de savoir s'il y a vraiment une fièvre du hockey sur glace ici. Il y a une fan zone qui est installée à côté de la patinoire. Mais pour l'instant, voilà, c'est assez compliqué de savoir. Et puis le Danemark évoluera pas ici à Copenhague, mais du côté d'Herning. Donc peut-être que la ferveur sera peut-être encore un peu plus présente à Herning plutôt qu'à Copenhague.
Quant à vous, vous avez pu pénétrer dans la Royal Arena de Copenhague, l'enceinte qui accueillera donc tous les matchs de la Nati. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur cette patinoire, une assez grande patinoire avec une capacité de 12 000 personnes?
Ouais, elle est grande et puis elle est magnifique, surtout ça depuis l'extérieur, l'architecture est assez belle. Alors c'est une salle multifonction comme on les appelle, c'est pas vraiment une patinoire à proprement parler. Elle est magnifique. Seul petit souci, c'est la glace qui ne serait pas de la meilleure des qualités selon les joueurs, à confirmer sur la durée du tournoi.
Bah justement, notre équipe nationale s'est entraînée aujourd'hui. Vous avez pu vous entretenir avec certains joueurs, avec l'encadrement également. Quel est l'état d'esprit de la troupe de Patrick Fischer et comment elle se trouve à quelques heures maintenant de son entrée en lice dans le tournoi?
Bah écoutez, l'équipe de Suisse est pour l'instant assez détendue, tout particulièrement le sélectionneur Patrick Fischer. Alors on a vécu une scène cocasse à l'entraînement ce matin. L'attaquant du CP Bern, Gaëtan Haas, en fait a percuté son entraîneur Patrick Fischer et il l'a mis au sol tout simplement. Et puis bien à l'heure de s'exprimer devant les journalistes, bien Patrick Fischer a rigolé de cet événement. Il a tout simplement déclaré bien il sera remplaçant demain Gaëtan Haas en raison de cet incident. Donc voilà, il est assez taquin Patrick Fischer. Et puis à un autre moment on lui a demandé bien qui de Reto Berra ou de Leonardo Giannoni bien garderait la cage demain de l'équipe de Suisse. Il a répondu Rodrigo Tosi, en référence à l'ancien gardien du CP Berne de la fin des années 90. Voilà un peu l'état d'esprit de Patrick Fischer. Patrick Fischer qui était détendu, mais au fond de lui, hein, y a pas de doute, il le sait. Il joue gros sur ces championnats du monde après cet échec des Jeux Olympiques. Patrick Fischer joue gros, mais pour l'instant, il joue la carte détente, tranquille, serein et prêt pour ces championnats du monde.
Du coup, vous avez l'impression que la déconvenue olympique est plutôt oubliée dans le groupe helvétique.
Ouais, c'est difficile à dire, hein. Il est forcément encore dans les têtes. Alors l'effectif a été largement remanié. Seuls 9 joueurs étaient à Pyeongchang, ils sont encore là au Danemark. Donc 10 joueurs effectuent leur début dans une grande compétition internationale. On a l'impression quand même qu'il y a une envie de tourner la page. Et puis ça commence par cet effectif remanié avec des nouveaux joueurs, avec un nouvel esprit, avec des jeunes joueurs, beaucoup de jeunes joueurs, à l'image de Damien Ria, le futur attaquant de Bienne, l'ancien de Genève Servette. Il espère amener du dynamisme, de l'insouciance, de la jeunesse. 21 ans, Damien Ria. Il y en a d'autres, il y a Noah Roth également. Alors voilà, les JO, oui, on a l'impression qu'ils sont toujours là, mais on a cette envie de tourner la page et assez rapidement.
Mathieu Germanier, vous parlez des jeunes. Il y a aussi des éléments qui n'étaient pas là du côté des Jeux Olympiques. C'est les joueurs qui évoluent en Amérique du Nord. La star, Nino Niederreiter, bien sûr, mais également Berra, Andrighetto, Müller, Kukan, Rod. Est-ce que l'on peut dire que ce sera un peu le petit plus, les baromètres de cette équipe durant les championnats du monde ?
Baromètre, bah comme vous l'avez dit, baromètre, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont amenés à tirer l'équipe de Suisse vers l'avant. On pense tout particulièrement à Nino Niederreiter et Sven Andrighetto, c'est un peu les deux joueurs qui doivent être dominants durant ces championnats du monde. Il y a la pression sur ses épaules, et déjà, Nino Niederreiter, on nous l'a déjà signifié, demain, il ne répondra à aucune interview. Il a très certainement été sollicité, voire trop sollicité durant ces derniers jours, l'attaquant de NHL. Et puis, à noter également qu'on parle de la possible arrivée de Roman Josi, le défenseur de Nashville. Il est désormais à 2-2 dans la série face aux Jets de Winnipeg. Donc en cas de défaite rapide de Nashville dans la série, on parle d'une éventuelle arrivée de Roman Josi, la possibilité d'inscrire 25 joueurs pour Patrick Fischer. Pour l'instant, on a l'impression que le sélectionneur joue un peu la montre, savoir combien de joueurs il va inscrire demain sur la feuille de match, en attendant la possible arrivée de quelques joueurs encore de NHL. Mais oui, ces joueurs de NHL devront bien permettre à cette équipe de Suisse de franchir un palier.
Mathieu Germanier, vous êtes notre envoyé spécial au Danemark pour ces championnats du monde. Merci d'avoir pris quelques instants en direct avec nous.
Merci à vous.
Et puis on vous retrouvera évidemment tout au long de ces joutes mondiales puisque vous nous proposerez des analyses et des réactions dans nos principales éditions.
C'est ainsi qu'on conclut cette émission. Vous retrouvez également 4 Sports en tout temps, hein, sur notre site internet, sur la page de l'émission. Retrouvez également les numéros précédents pour réécouter un peu toutes ces belles entrevues, ces belles rencontres que l'on fait sur le fond de sport. On vous souhaite une très belle soirée. À vendredi prochain.
Bon week-end, à bientôt.
Cap Sport. La Rediff.